pour l'instant.
Merci beaucoup, Dan. Il y a une déclaration du pape qui a retenu l'attention puis qui a beaucoup fait réagir au cours des dernières heures. Il a dit, et je cite, il parlait dans un discours qui s'adressait, là, c'était son homélie à Place Saint-Pierre, si j'ai bien compris. Il a dit, et je cite, « Comment un acte qui supprime une vie innocente et sans défense peut-il être thérapeutique, civil ou simplement humain? » Il a continué en disant, « Je vous le demande, est-il juste de mettre fin à une vie humaine pour résoudre un problème? Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai? Est-ce vrai ou pas? » Est-il juste de, et là, écoutez bien les mots, là, de louer un tueur à gages pour résoudre un problème? On parle évidemment d'un avortement, on compare, en tout cas c'est ce que j'ai compris, on compare par exemple le médecin qui procède à un avortement à un tueur à gages. Pour en discuter, on va recevoir le porte-parole du diocèse de Québec pour essayer de nous éclairer, nous faire comprendre ce que le pape a voulu dire. Jasmin Lemieux-Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que le pape veut dire quand il compare l'avortement et les gens qui procèdent à un avortement à des tueurs à gages?
Je me suis posé exactement la même question que vous. Quand j'ai vu les propos, j'ai voulu les écouter aussi, parce que l'audience générale, c'est une tradition hebdomadaire. Chaque mercredi, il y a des pèlerins d'un peu partout à travers le monde qui se réunissent, Place Saint-Pierre, et qui entendent, c'est pas une homélie, c'est un discours, une allocution.
Elle est en espagnol, hein, il l'a dit. En tout cas, le bout où il a procédé à ça, d'ailleurs, on a l'audio, si tu veux, Jasmin, on va l'écouter.
Oui.
Et juste, io vi domando. È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto. Fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema.
Donc, c'est là où il vient de dire, le tueur à gage. Évidemment, la foule disait non. Est-ce que c'est juste de tuer tout ça? Non, la foule, vous les avez entendus réagir, ils disaient non. Pourquoi utiliser une image aussi forte? Habituellement, on voit ça des politiciens en campagne électorale dans un débat très corsé, mais là, le pape, dans un discours officiel, c'est quand même plus que surprenant. Là, c'était quelque chose qui était préparé, c'était pas une improvisation ou une réponse à une question d'un média.
Oui, je pense que c'était en italien.
C'était en italien, excusez-moi. Oui.
Et puis, on le voit, les vidéos vont sûrement circuler aussi déjà sur les réseaux sociaux. Alors, il dit ça de façon un peu comme le grand-père assis, puis il lance comme ça. Alors, on voit qu'il est off-script, là. C'est un moment
où
il ne lit pas son discours. Et puis, il lance à la foule, bon, est-ce que c'est juste? Puis, il va avec cette image du tueur à gages. Alors, je me demandais pourquoi utiliser cette image-là, parce que moi, je vous dis, pour connaître des femmes qui ont fait le choix de l'avortement, je vois pas une situation, un contexte ou une image où je pourrais employer le terme tueur à gages. C'est une impossibilité pour moi. Alors, comment le pape peut choisir ça? Alors, je me suis dit, est-ce que le 15 septembre, il était en Sicile,
oui,
pour parler avec les mafieux. Est-ce que cette analogie-là, où il y a des problèmes de tueurs à gages, on le sait, avec la Costa Nostra, puis la Cosa Nostra, etc., est-ce que ça y est resté en tête? Peut-être. Est-ce que c'est pour exprimer une violence? Parce que ça, on peut s'entendre que il y a une violence envers l'embryon, ou comment on le voit, l'être humain en développement.
Dépendamment de quand on pense que la vie commence, quand est-ce que ça débute? Est-ce que c'est à la conception? Est-ce que c'est à partir du moment où le fœtus est capable de survivre sans la mère? Ou c'est à partir de la naissance? Tout le débat sur la question de l'avortement est là, et ça dure, c'est éternel ce débat-là. J'ai l'impression que ça dure depuis toujours, puis ça va toujours durer.
Oui. Puis, aujourd'hui, la question, parce que le débat de l'avortement, c'est un débat qui va demeurer. Mais comment on en parle? Comment on en dialogue? Cette question-là, elle est importante. Puis,
ça exacerbe les tensions,
oui,
là, comparer
moi,
les gens qui procèdent à des avortements, des tueurs à gages.
Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une parole libérée. À un certain moment, la parole d'un pape, je dirais même la parole d'un prêtre, aurait pu être sacralisée. Puis on voyait comme, oh, c'est un prêtre, c'est un évêque, c'est un cardinal, c'est un pape. Mais c'est un bonhomme, c'est un être humain faillible, comme toi, comme moi. C'est sûr qu'on s'attendrait à faire attention. Pourquoi utiliser? Parce que je pense qu'exacerber les tensions sur un sujet qu'on sait qui fâche. Alors, il a voulu exprimer, parce qu'on se rappelle au mois de juin, quand il avait parlé de l'avortement, il parlait de l'avortement thérapeutique, donc pour les enfants dont on détecte un handicap. Il avait fait une comparaison avec l'eugénisme nazi.
Oui.
Encore une comparaison très, très,
très
forte.
Ça aussi, ça l'avait choqué beaucoup de monde.
Fait que donc, on voit que le pape François, à certains moments, pour essayer... Et puis là, écoute, j'essaie d'interpréter ses propos. J'aimerais pouvoir échanger avec lui. Puis d'ailleurs, il y aura sûrement autour de lui, parce qu'il y a un synode des évêques présentement, il y a des évêques de partout à travers le monde. Puis moi, j'espère, puis en fait, je doute même pas que ses proches collaborateurs vont lui parler. François, tu peux pas faire ça. Tu peux pas employer un terme parce que, oui, pour nous, on considère, si on considère qu'il y a une vie humaine en développement, c'est un mal. Alors, c'est pas un bien. Mais comment l'exprimer, cette démarche, sachant qu'il y a toujours une vulnérabilité des femmes, de toutes les personnes, il n'y a pas une... C'est jamais la démarche est tellement loin de celle qui peut mener à quelqu'un d'embaucher un tueur à gages. Je veux dire, même si, parce que moi, je ne pense pas qu'il a voulu comparer directement un médecin avec un tueur à gages. Il a voulu faire une
image. Mais l'image, c'est celle-là.
Mais l'image, c'est pour ça que je n'essaie pas de défendre. Là. L'image qui est donnée, c'est celle-là. Alors moi, je dis, cher pape, merci pour toutes les fois où refuser de parler la langue de bois t'amène à pouvoir employer un langage. Puis c'est pour ça qu'on l'apprécie de pape François. Mais l'autre côté...
Jasmine, on pensait aussi que c'était un pape plus modéré. Moi, je me souviens, quand il est arrivé, on avait l'impression que c'était un vent de fraîcheur. On pensait qu'une institution millénaire comme l'Église catholique allait être un peu modernisée. Moi-même, j'ai écrit un livre sur l'homosexualité où je cite ses propos par rapport aux gays et lesbiennes, où on avait l'impression qu'il était un peu plus progressiste sur des questions qui ont chatouillé depuis longtemps. Puis moi, je pensais sérieusement que sur l'avortement aussi, il allait être... Je pense pas qu'il va être pro-vie, pro-choix d'un matin, là, mais... qui allait peut-être faire preuve de plus de compassion à l'endroit des femmes qui sont obligées de passer par ce processus-là. Puis de le voir aujourd'hui comparer ça à un tueur à gages, pour moi, ça a été un choc. Là. Je m'attendais vraiment pas à ce que le pape aille là. T'sais, je pensais vraiment qu'il était plus modéré que ses prédécesseurs. Puis là, je me demande s'il n'est pas plus radical aujourd'hui. Là.
Alors moi, je suis pas... Le choc, on le partage. Là.
Okay.
Moi, je travaille au service diocésain.
Oui.
Puis... Évidemment, on en a discuté de ça.
Évidemment.
Puis la réaction de tout le monde, c'est « Pourquoi François? » Et donc, le pape, lui, il va garder toujours... Alors, il ne condamne jamais les femmes. On se rappelle, dans tous ses propos, c'est l'acte qu'il condamne.
C'est l'avortement qu'il
jamais
condamne, pas
les
la
personnes.
Femme qui...
Il l'a fait pendant l'année de la miséricorde. Il a fait un geste qui rappelait l'absolution du péché d'avortement. C'est comme ça qu'il l'appelait. Où on pouvait aller directement au prêtre, ça n'avait plus besoin de passer par un évêque. Alors, il y a plein de moments dans son pontificat où il a choisi des mots pour montrer justement que sur la question de l'avortement, il ne voulait pas que ce soit un thème qui revient constamment. Il ne voulait pas... C'est la pastorale pour lui qui est... On l'entend parler des plus vulnérables, les migrants, l'environnement. Mais à certaines occasions, on voit qu'il y a un côté chez lui... où il se sent comme appelé à employer des images fortes. Et on le voit aujourd'hui, des images qui déplacées. Moi c'est comme ça, comme catholique, je vois ça. Mais en même temps, François, je l'aime à travers ça. Puis il faut lui dire, par exemple. Puis, alors oui, au synode, les évêques et les jeunes, il y a des jeunes qui sont là aussi, qui vont sûrement lui dire, pour que ce soit la dernière fois. Parce que il y a moi, ce que je ne veux pas... Alors, il y a eu au mois de juin cet l'eugénisme. Alors, moi, c'est sûr qu'il y a une dérive eugéniste sur la question. La question de la trisomie me touche particulièrement. Que dans certains pays, la question... En Islande, on le sait, il n'y a plus aucun trisomique. Les systèmes de détection ont fait que... Il n'y en a plus. Au Québec, il y en a beaucoup moins. Je pense que 90% des enfants qui
ils donnent le choix aux parents. Ils vont dire, on a diagnostiqué un problème de trisomie chez votre enfant. si on vous suggère de procéder à un avortement, mais c'est le choix des parents. Là, les parents, ensuite, ils se recueillent, ils se réunissent, puis ils discutent, puis ils décident si oui ou non. C'est arrivé à des personnes que je connais.
Ben oui, puis souvent, moi aussi, puis malheureusement, dans le système actuel de santé, même si on donne le choix, c'est comme si on ne donnait pas tous les mécanismes pour pouvoir montrer à quel point les familles... Moi, je ne connais pas une famille. Je connais plusieurs familles qui ont des enfants trisomiques. J'en connais pas une qui regrette d'avoir eu cet enfant-là. C'est une source de joie immense. Des gens qui sont heureux. On ne peut pas dire qu'un enfant trisomique est malheureux.
Non, mais c'est vrai. Alors,
il y a une question éthique à se poser.
C'est vrai qu'à l'hôpital, ils vont vous suggérer l'avortement. Ils vous l'obligeront pas comme en Islande, mais ils vont vous la suggérer.
Oh, moi, ils l'obligent pas en Islande. Hein?
OK, ils l'obligent pas. C'est juste qu'il n'y en a plus.
Il n'y en a plus.
Mais ici, moi, la famille que je connais, ils ont choisi de garder l'enfant. Mais l'enfant est mort de toute façon pas longtemps après, parce que souvent, ça arrive, ils ont des malformations autres. Et quand ils viennent au monde, souvent, ça arrive qu'ils ne survivent pas. Ça a été le cas des gens que je connais. Mais t'as raison que le système favorise l'avortement dans ces cas-là. C'est la même chose pour les nains aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était l'exemple que le pape avait utilisé au mois de juin. Je sais pas, j'ai hâte de voir si tu dis qu'il y a des gens qui vont y parler, peut-être qu'ils vont utiliser des images un peu moins fortes à l'avenir. On va voir, mais ça fait deux fois en l'espace de quelques mois.
Oui.
Qui utilisent des exemples très, très forts. Ils comparent ça une fois aux nazis, puis une fois des tueurs à gages. La prochaine fois, je sais pas ça va être quoi. Puis l'autre truc aussi que je me pose comme question, Jasmine, on l'a vu encore la semaine passée, on en a discuté ici avec ce qui s'est passé avec des allégations au sujet de sœurs qu'il y aurait eu. C'était pour la première fois qu'on entendait parler de ça, qu'il y aurait des possibles allégations d'agressions sexuelles à l'endroit d'enfants de la part de sœurs. Tu sais, j'aimerais ça que l'Église catholique condamne pas ces gens-là en disant que c'est des monstres barbares d'une époque ci puis ça. Puis les images sont peut-être moins fortes là. Tu sais, on a l'impression que quand il est question d'avortement, les images fortes sortent plus facilement là. Puis l'affaire des sœurs, honnêtement, moi j'ai été plutôt défenseur parce que je suis convaincu que les sœurs ont fait beaucoup plus au Québec que cette histoire-là. Puis on n'est pas capable de recenser combien il y a de cas. Puis c'est encore très comment je dirais ça? Très marginal. En tout cas, ce qu'on voit, là, les allégations sont très, très minimes par rapport à ce qui est sorti dans les médias, là, puis au grand titre que ça a fait. Mais quand même, on aimerait ça que les images fortes soient utilisées dans des exemples comme ceux-là.
Ça, je t'avoue que le pape utilise des images très, très fortes. La dernière fois qu'il a parlé de pédophilie, c'était dans son entrevue dans l'avion de retour de Dublin.
Oui.
Et il a parlé de messe satanique. C'est l'équivalent de messe satanique. Pour un catholique, là, parler de messe satanique... Il n'y a pas grand-chose de pire. Donc, je dirais que le pape, sur ce point-là, a employé les mêmes mots très, très forts pour qualifier
l'acte. Mais écoute, je suis content, Jasmin, d'avoir qu'il y a un porte-parole du diocèse de Québec qui vient nous en jaser, qui avoue que même pour lui, il trouve ça un peu fort. C'est pas toutes les institutions qui ont ça, puis c'est pas ce à quoi l'Église catholique nous a nécessairement habitués dans le passé. Je célèbre le fait que tu sois là aujourd'hui, puis tu nous en parles de cette façon-là. Puis avant de partir, je peux pas te parler d'un autre sujet d'actualité parce que tu sais que moi, je suis intervenu vigoureusement il y a un peu plus d'un an pour essayer de sauver le crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement, puis on a réussi.
Oui.
Le crucifix est encore là. À l'époque, j'avais un peu dénoncé le diocèse, puis j'avais brassé un peu même en onde en disant je comprenais pas pourquoi vous étiez pas porté avec nous à la défense du crucifix. Là, malheureusement, j'ai l'impression que le débat réapparaît, puis là, c'est pas à l'hôpital Saint-Sacrement, c'est à l'Assemblée nationale que le débat va réapparaître, avec encore une fois le crucifix au-dessus de la tête du président. Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir compter sur le diocèse de Québec pour se défendre, pour garder notre crucifix patrimonial à l'Assemblée nationale?
Bon. Alors, tout d'abord, pour Saint-Sacrement,
oui.
Il y avait eu plusieurs actions. On était venu sur le micro FM 93.
Oui, je me souviens.
Et puis, il y avait eu des actions de... Il y a des appels qui avaient été faits. Alors, on vous avait appuyé.
Alors, mais du bout des lèvres, puis c'était à la dernière minute. J'avais pas l'impression que vous étiez pas proactif.
Oui, mais on préfère de beaucoup que ce soit les gens, parce que faut se rappeler
toujours... Il y a une mobilisation de la communauté bien avant le diocèse.
C'est ça, et c'est bien. Parce que l'Église, ce n'est pas juste les institutions, ce sont les gens.
Évidemment,
et des
ça,
fois,
je comprends
c'est mieux parce qu'il y a un traumatisme culturel au Québec. On veut pas entendre parler l'Église, institution. Et là, c'était bien, c'était les gens qui...
Un mouvement citoyen.
Exactement. Donc maintenant, pour le fameux crucifix de l'Assemblée nationale. Alors, les évêques du Québec ont déjà pris la parole sur le sujet. Et puis, c'est vraiment un cas où les évêques disent, c'est à l'Assemblée nationale de décider. On accompagne l'Assemblée nationale si elle décidait, parce qu'un crucifix, nous, on le voit pas juste comme patrimonial. C'est clair, là. Un crucifix juste patrimonial, ça ne se peut pas.
Non, mais si on veut, si on peut pas dire qu'on veut un État laïque puis qu'on veut que le crucifix soit l'emblème de l'Assemblée ou soit au-dessus de la tête du président, s'il veut rester là, c'est au nom de ce que l'Église catholique a contribué dans l'histoire du Québec. C'est pour, en tout cas, moi, c'est comme ça, je le
oui,
vois.
Et c'est pour ça. Et la raison pourquoi il est maintenant, ce qu'on comprend, c'est que des gens pensent qu'il y a une valeur patrimoniale. Alors, nous, on dit, alors, si vous souhaitez le garder pour une valeur patrimoniale, vous pouvez le faire. Mais l'Église ne dira pas, on tient au crucifix, faut le garder là puis déchirer notre chemise. Non. Parce que c'est vraiment un choix citoyen. Comme c'est une assemblée nationale avec des politiciens élus, ce n'est pas à l'Église à dire ben, « faut garder un crucifix ». Ce qu'on espère, c'est que... Parce que si le crucifix est là, puis qu'il n'y a comme pas de sens du Christ en croix, Jésus que pour nous, Dieu qui s'est incarné il y a un peu plus de 2000 ans, s'il n'y a pas de sens religieux, ben là, c'est le sens patrimonial, puis ça reste un choix civique.
Politique, même.
Politique. Alors, c'est pour ça qu'on laisse le choix. Mais est-ce qu'on laisse la parole? Les gens, c'est sain qu'ils s'expriment.
Donc, il peut y avoir des curés qui vont nous dire ici, oui, il faut garder le crucifix à l'Assemblée nationale. Chaque citoyen a le droit, y compris les gens dans le clergé.
Oui, il y a une liberté totale là-dessus.
OK. Bien, merci beaucoup, Jasmin. Faut toujours agréable de se parler. J'espère que la prochaine fois, ça ne sera pas pour des déclarations malheureuses du pape, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir en studio.
Merci.
C'était Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est porte-parole du diocèse de Québec.